Bonjour Rec ou Nathan Jonio, on va voir qui parle aujourd'hui.
Tout à fait, ce serait un peu des deux. Bonjour Guillaume.
Salut. Alors, ce qui nous occupe aujourd'hui, en grande partie en tout cas, ça va être des questions liées au féminisme. Et ben, on se disait, tiens, partir de la masculinité, la question de la masculinité comme question à intégrer dans les réflexions féministes, ça pourrait être intéressant. Mais d'abord, c'est un concept qui te parle, hein, la masculinité, toi?
Oui, c'est un concept. C'est un concept qui me parle en effet, parce que je travaille là-dessus dans le cadre de mes études. J'ai commencé à travailler sur des questions de virilité liées au nationalisme quand j'étais en troisième bachelier en socio-anthropo. Et puis après, j'ai fait mon mémoire en master 2 en anthropo sur les masculinités en lien avec des questions de santé, en particulier la dysfonction érectile. Donc en effet, c'est vraiment un domaine de recherche dans lequel je commence à me spécialiser, quoi.
Un domaine de recherche et un peu de recherche-action aussi?
Ouais, en tout cas, j'aimerais bien. Je dirais pas que j'en suis encore là, parce que c'est pas évident de mettre en place une recherche-action. Mais je pense que mon idée, quand même, ce serait de un peu de faire bouger les choses, en tout cas au niveau des institutions biomédicales. Donc là, je travaille en fait avec un urologue du CHU de Liège. Et en fait, j'aimerais bien, à terme, en arriver à une vraie collaboration avec son équipe, qui travaille donc... qui font des traitements de la dysfonction érectile, quoi. J'aimerais bien travailler avec eux, par exemple, pour rendre cet espace plus inclusif, entre autres, parce qu'en l'occurrence, les patients que j'ai rencontrés, c'était principalement des hommes cisgenres hétérosexuels blancs, vraiment majoritairement. Et donc j'aimerais bien, dans mes recherches, j'ai essayé de comprendre pourquoi on avait cette homogénéité dans cette population. Et donc j'en suis arrivé à certaines conclusions qui peuvent peut-être m'amener à un moment donné à proposer quelque chose d'autre. Et essayer de travailler avec les professionnels de la santé pour voir comment on peut faire en fait pour rendre cet espace soit plus inclusif, soit aussi pour en l'occurrence délier les questions de dysfonction érectile et les questions de plaisir sexuel.
Pourquoi c'est important de délier dysfonction érectile et plaisir sexuel, ou pourquoi ça te préoccupe autant?
En fait, ça me préoccupe parce que moi-même, dans ma sexualité, je me rends compte que la pénétration pénovaginale, en l'occurrence, elle est importante dans ma sexualité, elle est très présente, mais je me rends compte que c'est pas la seule source de plaisir sexuel. Et je me rends compte aussi chez des personnes atteintes de dysfonction érectile que le plaisir sexuel en fait n'est pas toujours lié à la pénétration pénovaginale. En l'occurrence, j'ai eu quelqu'un en entretien, dans une conversation tout à fait informelle, qui m'expliquait que depuis qu'il avait plus d'érection, il avait un plaisir sexuel qui était décuplé, quoi, et des orgasmes qui étaient bien plus intenses que quand il était en érection. Et du coup, quand il m'a dit ça, j'étais un peu sur le cul, parce que je me disais, mais comment c'est possible en fait? Parce que on nous apprend en fait a priori que le plaisir sexuel, c'est la pénétration, quoi, et c'est surtout lié à l'érection. Et en fait, lui, il disait que je bande plus et en fait j'ai plus de plaisir qu'auparavant. Et donc, ça m'a montré en fait que c'est un peu un point de vue biaisé, du coup, dans les traitements biomédicaux de la dysfonction érectile, de rattacher la retrouvaille d'une fonction érectile à la retrouvaille d'un plaisir sexuel, parce qu'en fait le plaisir sexuel peut exister en dehors de la dysfonction de la fonction érectile. Et donc la question que j'aimerais poser aux médecins à un moment donné, c'est de leur dire, mais du coup, est-ce qu'on peut pas essayer d'accompagner des gens aussi qui ont envie de retrouver un plaisir sexuel mais qui n'ont pas forcément envie de retrouver une érection? Est-ce que c'est possible? Et en l'occurrence, actuellement, c'est pas quelque chose qui est proposé et il n'y a pas de suivi qui est fait pour ces personnes-là, quoi. Donc pour moi, c'est important parce que ça, c'est des questions de corps, c'est des questions de sexualité, de santé. Et alors, il faut pas nier que la dysfonction érectile est rattachée à d'autres problèmes de santé, donc c'est important qu'il y ait un suivi médical, que ce soit pour des cancers, pour de l'hypertension, que ce soit pour aussi principalement des problèmes cardiovasculaires. Donc c'est important, mais on n'est pas obligé de rattacher ça au plaisir sexuel, quoi.
Et ta démarche d'anthropologue, Est-ce que tu peux, parce que là tu donnes des visées d'enjeux de politique de santé, hein, surtout, et puis on voit un peu de représentation de l'homme, mais c'est cet angle-là qui t'amène en tant qu'anthropologue à t'interroger à cette question, les représentations que les hommes ont d'eux-mêmes, ou est-ce que tu peux le définir un peu plus précisément ?
Je suis pas sûr de comprendre ta question.
Bah, tu t'intéresses à cette question en tant qu'anthropologue. Pourquoi un anthropologue s'intéresse à cette question de la dysfonction érectile ?
En fait, le truc, c'est que je me pose la question avant tout pas en tant qu'anthropologue, mais en tant que moi-même, en fait. En dehors du fait que je suis anthropologue, parce que je me suis fait opérer, en fait, quand j'avais 14-15 ans, je me suis fait opérer d'une torsion testiculaire. Et en gros, c'est la torsion testiculaire, tu peux, sur une seule journée, en quelques heures... ton testicule peut mourir en fait si t'es pas opéré en urgence. Et en fait, à ce moment-là, j'avais pas osé appeler en urgence mon père pour qu'il vienne me chercher rapidement à l'école où j'étais. Et du coup, j'ai fait genre que j'avais mal au ventre et tout. Il est venu me chercher. Et puis, quand on est sorti de l'école, je lui ai dit en fait, on va aux urgences parce que ça va pas du tout. Mon testicule, il est trois fois plus gros que d'habitude, donc ça fait super mal. Et en fait, aux urgences, ils m'ont dit en fait, tu serais venu quelques heures plus tard, on aurait dû faire une ablation, quoi. Et donc, je veux dire, j'aurais pu vivre avec un testicule en main, tu vois, c'est pas un souci, mais voilà, je veux dire, c'est quand même quelque chose qui est marquant dans la vie d'un jeune homme, quoi. Enfin, en tout cas, j'étais un jeune homme à ce moment-là. Je peux pas dire que ce soit encore le cas, mais du coup, bref, en fait, j'en viens à ça, et en fait, le fait d'être anthropologue, ça me permet de me poser des questions, en fait, simplement. Donc ça me permet de poser des réflexions et de me poser des questions par rapport à ces choses que j'ai vécues et de me rendre compte qu'en fait, cette réaction que j'ai eue, elle correspond aussi à des pratiques collectives et à des représentations collectives de ce que c'est qu'être un jeune garçon ou un homme. Et du coup, c'est comme ça qu'en tant qu'anthropologue, j'en viens à me poser cette question. En fait, mon point de départ, c'est moi-même, quoi. C'est mes propres expériences. Et donc, j'en suis venu à la dysfonction érectile, pas parce que j'ai déjà eu un problème... Enfin, si on peut appeler ça un problème, j'ai déjà eu une dysfonction érectile à différents moments de ma vie, tu vois. En l'occurrence, pour des raisons psychologiques qui n'étaient pas liées à des raisons physiologiques. Mais du coup, j'en suis pas venu à la dysfonction érectile par expérience personnelle spécialement, mais parce que c'est le terrain qui m'a amené à ça, parce que j'ai rencontré un urologue qui travaillait spécialement sur ça et qui m'a proposé de travailler là-dessus. Et vu que ça correspondait à ce que je voulais faire, je voulais vraiment m'intéresser à l'appareil génital dit masculin, et donc du coup ça se mettait bien, quoi, tout simplement.
Et en quoi cet intérêt pour le fonctionnement de l'appareil génital masculin peut intéresser, peut être lié à des questions de féminisme? Tu vois des liens, toi?
Ouais, je vois beaucoup de liens, mais en fait, déjà, je veux dire, mon point de départ déjà dans mon premier mémoire, et ça va être le cas encore cette année pour mon mémoire en études de genre, mon point de départ, il est féministe, au sens où je vais déjà, au niveau de mes méthodes, je vais aller déjà chercher de la littérature féministe écrite par des auteurs et autrices féministes.
Pourquoi
il n'y a pas vraiment, comment, je sais pas si je répondrai à un pourquoi, tu vois. Je pense que c'est des choix politiques à un moment donné de se dire, tu vois, je peux pas te dire pourquoi je défends le féminisme. Je peux te dire comment je le défends, mais est-ce que je peux te dire pourquoi? Enfin, je veux dire...
Dès le départ, c'est une approche féministe de la masculinité.
Ouais, clairement. Mais alors, le truc, c'est que... En fait, c'est pas si évident de défendre l'étude critique des masculinités dans une perspective féministe, même si ces études-là spécifiquement ont toujours été rattachées au courant féministe. Il y a des féministes et il y a des courants féministes qui s'opposent, en fait, au fait de considérer l'étude des masculinités. Pourquoi ? Parce que souvent c'est plus facile de considérer que les hommes ce sont juste une masse de dominants, et là c'est même une citation, j'ai pas la référence comme ça, mais il y a cette phrase de masse de dominants, c'est comme ça que les hommes sont perçus, en fait. Et du coup il y a beaucoup de perspectives féministes qui vont juste réduire, en fait, les dominations sociales à un gros dominant qui exerce une oppression sur des dominés. Et en fait, le truc, c'est que les études critiques des masculinités montrent que c'est pas juste de voir les choses comme ça, au sens où le fait de simplement de parler de masculinité au pluriel, c'est pour dire qu'il y a des rapports de pouvoir qui existent, en l'occurrence entre les hommes et les femmes, mais aussi entre les hommes entre eux. Donc, je veux dire, il y a des rapports de pouvoir qui s'exercent vis-à-vis d'hommes cisgenres hétérosexuels sur des hommes cisgenres gays, d'hommes cisgenres blancs sur des hommes cisgenres noirs. Et du coup, on a des rapports de pouvoir qui s'expriment, enfin, et qui se voient par les processus de sexisme, d'homophobie, de racisme, etc., de validisme également. Et du coup, on voit qu'en fait, les masculinités, ça permet de complexifier, en fait, c'est quoi les hommes, quoi. Et c'est une perspective féministe, au sens où déjà le point de départ, c'est d'étudier les rapports hommes-femmes, et d'étudier comment finalement cette domination qui est réelle, comment la domination s'exerce, mais comment elle s'exerce en pratique. Donc c'est vraiment une approche qui est très pragmatique, en fait, c'est des approches par entretien. Enfin, en l'occurrence, l'autrice principale, qui a mené vraiment cette théorie au bout, c'est Raewyn Connell, qui est une sociologue australienne, qui a vraiment fait des entretiens de récits de vie, en fait, avec énormément d'hommes, pour essayer de déterminer, dans une approche à la fois psychanalytique, sociologique et psychologique, pour essayer de voir comment dans leur pratique leur masculinité s'est construite, en fait, et comment leur masculinité s'est transformée aussi, de leur enfance à leur vie adulte.
Tu dis, un des enjeux serait de complexifier la représentation de l'homme pour les études féministes. Tu l'as déjà un peu développé. C'est l'enjeu principal, complexifier. Parce que j'imagine qu'on peut aussi... tu vois, t'amener des objections sur ce terme-là. En gros, c'est amener les féministes à se dire, tiens, la vision de l'homme que vous soulevez, elle est un peu caricaturale. Du coup, en tant qu'homme, on va amener une approche un peu plus complexe, quoi. Ça peut créer des réactions aussi, des résistances, ça.
J'ai déjà eu plein de résistances, en fait, hein. Déjà dans mes travaux, en discutant avec des collectifs et des associations féministes liégeoises, entre autres, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de résistances et qu'il y avait énormément de difficultés, en fait, à amener cette discussion, parce que, par exemple, j'ai voulu créer des groupes de parole pour des personnes concernées par la dysfonction érectile, et ça a été très difficile à défendre comme projet, parce qu'on avait peur que ce soit des groupes qui servent à du super masculinisme, et qu'on soit entre mecs en train de faire des trucs problématiques et violents, quoi. Et donc, c'est un projet...
Mais ça, si l'intention était claire, faire des trucs problématiques et violents, c'est un peu exagéré. Mais juste se retrouver pour parler de sa bite, en gros, peut-être même juste ça peut susciter des résistances.
Ouais, ça peut susciter des résistances, parce qu'en fait, la difficulté de travailler sur la bite, c'est que, en fait, la bite, bah, dans une perspective féministe, comment l'appeler ? Dans certaines perspectives féministes, le zizi, c'est quand même vachement, le zizi, c'est le viol, quoi. Donc, tu vois, je veux dire, à un moment donné, forcément qu'il y a des résistances, et de manière complètement légitime et justifiée aussi, tu vois, parce que, je veux dire, on parle quand même un peu de cet emblème ultra-violent, quoi. Et donc, je comprends. Et en fait, moi, ce que j'essaye d'amener en travaillant sur la dysfonction érectile, c'est de dire, mais en fait, regardez, justement, ces hommes qui sont en dysfonction érectile, parce qu'en l'occurrence, j'ai travaillé encore qu'avec des hommes cisgenres, ces hommes, en fait, ils sont eux-mêmes subordonnés à une masculinité valide au niveau érectile, quoi. Et du coup, ils sont pas bien, en fait. Socialement, ça se passe pas bien pour eux, en fait, parce qu'ils peuvent en parler à personne, parce que sinon, ils sont ramenés à une image soit d'enfant, soit de tapette, de PD, de femme, parce qu'en fait, l'image qu'on a de la dysfonction érectile, c'est la faiblesse, et du coup, on est dans le registre de la féminité, et du coup, on a ce sexisme et cette violence-là qui peut potentiellement s'exercer sur ces hommes, et du coup, ils n'en parlent pas, ni à leurs potes, ni à leurs collègues, ni à leurs femmes, ni à leurs médecins, et du coup, ils se retrouvent avec des problèmes de santé qu'ils ne vont pas régler, parce qu'en fait, ils ont peur, quoi, d'en parler, tu vois. Et donc, moi, pourquoi c'est une perspective féministe vis-à-vis de ça, c'est parce que... En fait, moi-même, en fait, j'ai difficile à le justifier parfois, parce que tu vois, par exemple, je peux pas dire que travailler sur la dysfonction érectile, c'est un truc qui va avoir un effet positif direct sur la condition matérielle des femmes, par exemple, tu vois, des femmes cisgenres. Je peux pas dire ça, en vérité, parce que, je veux dire, c'est pas vrai. Mais je pense qu'il faut élargir ce qu'on entend par féminisme, au sens où ce qui est féministe aussi, c'est de pouvoir montrer à des hommes, cisgenres en l'occurrence, qu'il y a d'autres possibilités de vivre sa masculinité, et que on peut, enfin, comment dire, qu'on n'est pas obligé d'être ultra viril, tu vois, pour être un homme, en l'occurrence. Et du coup, enfin, je veux dire, il s'agit de casser les catégories, en fait, pour montrer que ces catégories-là, elles sont fluides, elles se transforment, et que du coup, on n'est pas, enfin, on n'est pas dans une binarité un peu violente. Après, enfin, tu vois, je dis ça, et je veux dire, les hommes avec lesquels je travaille, c'est pas à eux que je vais dire, mais si vous voulez, vous pouvez avoir plus de fluidité dans votre identité de genre, c'est pas ça l'objectif non plus, c'est pas ça que je veux dire, tu vois, mais il s'agit de dire, il s'agit de travailler, en fait, sur les rapports de pouvoir qui existent entre hommes aussi, quoi, et de montrer que cette violence, elle s'exerce aussi chez les hommes, quoi. Et sans, évidemment, sans... minimiser le fait qu'il y a une violence énorme qui est appliquée aux femmes cisgenres, quoi, tu vois. Vraiment.
C'est même pas une question de minimiser ou pas, enfin peut-être, mais en tout cas en intégrant ça dans la question.
C'est l'impression que ça pourrait donner, tu vois, c'est que du coup on travaille là-dessus et que du coup on pense plus à la condition matérielle des femmes. Mais en fait, en quoi c'est une perspective féministe aussi à un niveau méthodologique, en fait, quand je travaille avec des couples cisgenres hétérosexuels, il s'agit de parler aussi avec les épouses, avec les compagnes, avec les partenaires, pour savoir comment elles considèrent la dysfonction rectile, comment elle est impliquée dans leur vie. Et en fait, qu'est-ce que j'ai appris en faisant ça, c'est que parfois la fonction érectile est plus importante pour la partenaire que pour la personne concernée par la dysfonction érectile. Et là, je découvre un truc quand même, c'est de me dire, ben, en fait, là où on pourrait penser que ce sont les hommes qui veulent reprendre en main leur virilité avec leur gros zizi qui bande dur, ben en fait, j'ai eu beaucoup de cas où en fait c'est leur partenaire qui leur disait, mais en fait moi j'ai envie que tu continues, que tu puisses continuer à me pénétrer, parce que sinon notre couple ça va pas aller. Et donc en fait c'est plus une question d'hétérosexualité et d'hétéronormativité que tu vois, dans ce cas-ci on n'était pas dans quelque chose d'une violence exercée par un zizi qui bande dur sur une femme qui le subit dans son couple alors qu'elle en voudrait peut-être pas et que peut-être elle est contente que le mec il bande plus. Et je pense que ça doit exister, hein, je dis pas que ça existe pas, mais dans les cas que j'ai rencontrés, il y a beaucoup de partenaires qui étaient soit contentes de pouvoir retrouver une sexualité pénovaginale, soit qui amenaient même leur partenaire à avoir un implant pénien pour la retrouver alors que leur partenaire éventuellement aurait pu ne plus avoir d'érection et ça, enfin voilà, et aurait pu faire sa vie sans, quoi. Et donc voilà, ça c'est, tu vois, c'est une perspective féministe aussi dans ce sens-là, quoi, parce que évidemment je travaille pas que avec des hommes cisgenres, quoi. Il faut travailler vraiment tous les, je dois vraiment travailler sur tous les rapports de pouvoir qui existent au sein de ce processus de traitement, quoi, tu vois.
Pour terminer, Clore, en quelques mots, ce serait quoi la question fondamentale qui te taraude ? Tu l'as déjà évoqué, peut-être déjà t'as dit des mots qui vont se retrouver dans cette question-là, mais je t'invite à clore de cette manière-là.
Une question un peu clé, quoi.
Peut-être qu'il traverse aussi ton parcours en tant que crec, en tant que slammer, en tant que chauffeur de salle.
Ouais, tout à fait, un truc un peu transversal. Est-ce que j'ai une question transversale qui me vient comme ça? Peut-être pour essayer de rattacher ça aux masculinités. Ouais. Je pense que j'ai une réflexion qui m'est venue hier qui était plus rapport à la question des catégories. Parce que tu vois, hier, j'ai performé un texte qui s'appelle Cis-Het et dans lequel je parle de qu'est-ce que c'est d'être entre mecs, blancs, cisgenres, hétérosexuels. J'ai été beaucoup dans ces groupes-là quand j'étais plus jeune et je connais ces groupes-là très très bien. Et donc j'ai parlé dans ce texte-là de la violence, en fait, que j'ai observée dans ces groupes et de la violence que j'ai exercée moi-même. Et en fait, quand j'annonçais le texte, il y a quelqu'un dans la foule qui a dit fuck la virilité. Et du coup, j'ai rigolé, j'étais là, ouais, bah ouais, fuck la virilité. Et en fait, en y repensant après, je me suis dit, bah, en fait, non, pas fuck la virilité, parce que, en fait, moi, depuis que... Enfin, je veux dire, c'est assez récent, mais je commence à avoir une expression de genre un peu plus féminine pour certaines... Enfin, voilà, à certains moments de ma vie. Et en fait, je me suis jamais senti aussi viril que depuis que j'ai une expression de genre un peu plus féminine, tu vois. Et du coup, en fait...
C'est comme moi, je me suis jamais senti aussi viril qu'en étant PD.
Ouais, mais clairement, tu vois, mais complètement, en fait. Et donc, c'est vraiment ce sentiment-là, quoi, tu vois. Et donc, je sais pas, en fait, le truc, c'est que je pourrais pas avoir une question transversale, mais c'est plus une réflexion transversale, du coup, de se dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ces catégories ? Bon, c'est un peu une question, du coup. qu'est-ce qu'on peut faire avec ces catégories, comment est-ce qu'on peut amener à la fois dans nos recherches, mais aussi dans nos perspectives militantes, pratiquement, comment est-ce qu'on peut amener les gens peut-être à réfléchir sur ces catégories et à comprendre qu'elles ne sont pas figées, quoi. Ça, c'est hyper transversal, en fait. C'est vraiment de se dire, ces catégories-là, elles sont construites, on peut les faire bouger, on peut les réfléchir autrement. Et voilà.
Merci, Nathan, Jonio, Eric.
Merci beaucoup à toi.